Radio.
Dans ce journal, on va à l'Assemblée où on a encore discuté de la tour des juges. Des discussions, il y en a aussi au CESEC, mais pour parler du tourisme. Et puis on vous parle aussi d'avion, de boxe et de magie. Et ce journal est présenté par Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Harry, bonjour à toutes et à tous.
Passe politique autour de la tour des juges.
Eh oui, depuis 3 mois, le débat avait lieu entre Tehaupo, Paris et la présidence, dans la presse locale ou internationale, mais il ne s'était que très peu exporté vers l'Assemblée. Eh bien, ça a été le cas ce matin, à l'occasion de l'étude à Talahoy d'un projet de loi qui vient réajuster les moyens du pays pour ce projet de tour. Le texte a surtout pour objectif de contourner les règles de marché public, afin de ne pas avoir à lancer de longs appels d'offres pour la construction de la tour, dont le coût a dépassé les 500 millions de francs. Mais les débats ont surtout porté sur la responsabilité de l'imbroglio actuel. Et c'est avant tout le Tavigny qui est à l'offensive. La majorité le rappelle, lors de la prise de pouvoir de Moetei Brotherson, Tehaupo avait été sélectionné pour les Jeux Olympiques depuis plus de 3 ans et la tour en aluminium était déjà en construction. Aussi, les élus Bleu Ciel ne mâchent pas leurs mots contre le projet.
Une tour hors normes et hors de prix. On nous parle de plus d'un demi-milliard de francs actés par le précédent gouvernement et la construction de celle-ci a déjà démarré même avant l'arrivée du nouveau gouvernement. Une tour hors normes avec une structure métallique digne de Jurassic Park, avec des fondations gigantesques qui ne peuvent supporter le platier de Have Air.
Voilà, vous avez entendu Odette Ohomai, représentante Tavigny à l'Assemblée, dont le discours a été complété par d'autres élus Bleu Ciel. Tous parlent d'une opacité organisée, d'un projet mal préparé par l'ancien gouvernement, d'une tour infernale ou d'une patate chaude à 500 patates. Certains font même le lien avec les essais nucléaires et expliquent que le gouvernement Brotherson n'a pas d'autre choix que d'assumer les erreurs du passé. Ce que conteste Édouard Fritsch, particulièrement dans le viseur de ces débats. Écoutez.
J'ai envie de vous rappeler que vous êtes au pouvoir, que vous êtes maître de la situation, qu'il faut arrêter de gémir, il faut arrêter de chercher la mort du petit rouge. Vous faites que cela, trouver des bobos, trouver tout ce que l'on peut reprocher au gouvernement Tapura, parce que vous êtes incapable de prendre au moins une décision. Vous avez la possibilité d'arrêter les jeux. Pourquoi vous ne le faites pas? Et vous avez vu que d'autres communes sont déjà prêtes à prendre entre les lèvres. Pourquoi vous ne faites pas?
Voilà, Édouard Fritsch, pour qui le Tavigny entretient lui-même la polémique autour de la tour pour des raisons politiques. L'ancien président qui insiste sur le fait que l'organisation des Jeux en Polynésie est une opportunité qui n'arrivera qu'une seule fois et que c'est l'occasion de rappeler au monde que la Polynésie est le berceau du surf. Côté Tavigny, seul Oscar Temaru a nuancé l'offensive en expliquant qu'à 6 mois des Jeux, il fallait se concentrer sur l'organisation plus que sur le débat. Et cette organisation, elle ne peut de toute façon pas être abandonnée si facilement, comme l'a précisé la ministre des Sports, Nahema Temari.
Parce qu'évidemment, arrêter de tels jeux aurait des pénalités financières qui viendraient augmenter le budget dédié aux jeux. Et même si on peut être effaré devant les sommes astronomiques, quand je vois un parc aquatique à 8 milliards, je suis encore plus effaré. Il ne faut pas oublier que c'est de l'économie circulaire. Donc c'est de l'argent que nous investissons dans notre économie. Donc c'est important. Si nous venions à ramener les jeux, on prendrait l'argent du peuple, l'argent du pays, et on financerait cette même organisation ailleurs, ça n'aurait pas de sens.
Voilà des propos qui ont là encore fait débat, hein, puisque le camp Tapura estime que le Fénois pourrait abandonner l'organisation des Jeux à moindre coût. Si le gouvernement ne le fait pas, c'est parce que ces Jeux sont voulus par la population. Voilà ce qu'en dit l'opposition. Quoi qu'il en soit, cette épreuve de surf a un coût, 3,5 milliards de francs d'investissement pour le pays, en comptant les travaux de la marina de Tehaupo et du bord de mer, 815 millions pour l'État, auxquels s'ajoutent 1,1 milliard de coûts de fonctionnement. Les retombées locales de la compétition sont-elles estimées à 1,2 milliard de francs.
Et pendant ce temps-là, on parlait de tourisme au CESEC.
Eh oui, le Conseil économique et social devait analyser non pas un, mais 3 projets de loi du pays ayant en lien avec la nouvelle stratégie touristique du gouvernement. Une stratégie qui, vous le savez, va évoluer. Fini le plafond des 1 touriste pour habitant, fini le tout haut de gamme. Moetei Brotherson vise 600 000 voyageurs annuels d'ici 10 ans, contre un peu plus de 250 000 aujourd'hui. Il veut réorienter une partie du flux vers la petite hôtellerie, les pensions de famille et même le logement chez l'habitant, Charles Irénée.
Et oui, Valdemar, c'est une des nouveautés de ces textes qui viennent assouplir certaines règles d'hébergement pour faciliter le séjour chez l'habitant. Plus de sanitaires ou de salles d'accueil réservées aux clients, mais une présence obligatoire de l'exploitant. Pour le gouvernement, ces chambres d'hôtes doivent être assimilées aux pensions de famille qui ne pourront donc se distinguer qu'en obtenant un classement. Une idée qui ne convient pas au CESEC et pour qui les 2 catégories d'hébergement doivent être bien différenciées dans la loi. Le Conseil interpelle aussi sur les normes et les contrôles d'hygiène dans ces accueils chez l'habitant, Valdemar.
Oui, ça n'est d'ailleurs pas la seule recommandation du CESEC qui s'oppose s'oppose aussi à la suppression des aides aux villas de luxe ou juge largement insuffisantes celles qui sont débloquées pour les pensions de famille et les comités locaux du tourisme. Surtout, les patrons d'hôtels représentés au sein du Conseil ont réussi à se faire entendre. L'objectif de 600 000 touristes est jugé particulièrement utopique après le coup de rabot des aides aux grands hôtels. Le CESEC s'interroge au passage sur la suite donnée au projet de village tahitien dont le gouvernement Brotherson n'a plus parlé depuis plusieurs mois.
On poursuit ce journal du côté de l'aéroport.
Oui, avec Air France qui a présenté hier son A350-900, un appareil de nouvelle génération qui remplacera progressivement les Boeing 777 sur la desserte de Tahiti. Moteur plus silencieux, hublot plus grand, vol moins turbulent et raccourci de 30 à 45 minutes, mais aussi air de la cabine mieux renouvelé et ambiance lumineuse plus travaillée. Air France a ainsi détaillé les nouveautés de cet avion en insistant sur le bénéfice environnemental de ce changement. Selon la compagnie, l'A350-900 devrait permettre une économie de 25% de la consommation d'énergie par rapport au 777 qui quittera définitivement la ligne en juin prochain. Côté cabine, c'est d'abord sur le confort de la classe business qu'est orientée la communication. Mais la compagnie assure tout de même que les autres cabines premium, économie et économie ne sont pas oubliées et que tous les passagers gagneront en confort d'assises, en connexion et en niveau de service à bord.
La fête bat son plein aux Marquises.
Et oui, la 14e édition du Festival des Arts et de la Culture des îles Marquises a été lancée à Nuku'hiva samedi. Ça se poursuit jusqu'à mercredi. Alors pour l'occasion, le président Brotherson et certains membres du gouvernement ont fait le déplacement pour l'inauguration de cette grande fête marquisienne. Au programme, des chants traditionnels, le fameux découpage de rubans et les échanges de cadeaux. Le tout sous la thématique cette année de la transmission. Et pour l'événement, la terre d'accueil de ce festival, Nuku'hiva a vu sa population doublé, passant de 3000 à 6000 visiteurs.
Intervention d'urgence à Moorea.
Eh oui, deux baleines à bec adultes ont été retrouvées près d'un rivage de l'île Sœur vendredi. Il n'y en avait plus qu'une samedi, la plus jeune des deux qui n'avait pas pu suivre sa congénère qui, elle, avait réussi à être guidée au large par la population. Alors présente en baie de Vaiare, cette deuxième baleine semblait désorientée. Elle a d'abord été prise en charge par une vétérinaire puis remorquée hors du lagon par des bénévoles. Mais cette tentative, comme les suivantes, ont échoué puisque le cétacé revenait toujours vers le quai de Vaiare. Hier, des nageurs autorisés par la direction de l'environnement l'ont finalement guidé au large. Une opération réussie grâce au réseau des gardiens de l'océan et à des associations Oceania, Mano Mana Foundation ou encore Mata Tohora.
Environnement toujours avec cette subvention.
Et oui, 5 espèces d'oiseaux menacées de disparition sont au cœur de toutes les préoccupations des ornithologues au Fénois. Alors en ce qui concerne par exemple le monarque de Fatouhiva, 19 individus sont encore en vie. Les puffins de Rapa, le petit lobe de Rapa, le monarque de Tahiti ou encore la galie-colombe sont un peu plus nombreux, quelques dizaines, presque quelques centaines même, mais leur situation n'en est pas moins préoccupante. Ces espèces sont donc au cœur d'un projet de préservation Stop Extinction. Il est porté par la SOP Manu, qui vient d'obtenir un financement de 327 millions de francs, des deniers qui proviennent du Fonds vert, un programme de l'État qui permettra de financer plus de 80% de ce programme.
Sport, on parle de boxe.
Avec cette nouvelle victoire pour Nike Gobré, après avoir remporté il y a une semaine la demi-finale du championnat de France des poids mouches seniors, c'est-à-dire les moins de 51 kilos, ce jeune boxeur de 17 ans s'est offert le titre de champion samedi en région parisienne contre Enzo Borel, un boxeur membre de l'équipe de France des moins de 22 ans. Alors pour préparer ce face-à-face contre ce boxeur plus expérimenté et de 4 ans son aîné, Nike a bénéficié des conseils de son père Tini, mais aussi de ceux de son oncle Patrice Gobré qui le suit depuis le Fénois. Le boxeur nous raconte.
Je pense que la motivation, comme je l'ai dit, la hargne, l'agressivité que j'avais ont fait la différence parce que techniquement, on avait quasiment le même niveau. Il a plus d'expérience que moi aussi. Il venait de sortir des championnats d'Europe et il a 4 ans de plus que moi. Du coup, ça aurait pu jouer en sa faveur.
Et voilà, après un combat qu'il dit très serré du début à la fin, le jeune Nike repart donc avec la ceinture qu'il convoitait. Il clôt en beauté sa première année chez les seniors. Il s'agit de son deuxième titre de champion de France puisque le premier avait été remporté en début d'année mais chez les juniors. Et il a encore des objectifs pour la suite.
Mon prochain objectif, c'est d'intégrer l'INSEP ou l'équipe de France chez les moins de 22 ans. Grâce à cela, je pense que je vais pouvoir poursuivre mes études en STAPS.
Sur le long terme, ma qualification aux Jeux Olympiques 2028. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de Tahitiens qui se sont qualifiés pour les Jeux.
Voilà, des propos recueillis par Vaitiaré Pereire.
Et puis un peu de magie pour terminer ce journal.
Et oui, puisque le festival Les Stars de la Magie, c'est les 23 et 24 février au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Nicolas Del Pozzo, le créateur et tête d'affiche du festival, est au Fénoua, à 2 mois de cet événement inédit à Tahiti qui a déjà tourné un peu partout en France. Alors cet illusionniste sera entouré par 6 autres grands noms de la scène française et européenne. Et il a bien l'intention d'impressionner, d'amuser, d'interroger et de faire rêver le public tahitien. Il promet surtout des échanges avec le public qui pourraient permettre aux aspirants magiciens de pourquoi pas percer certains secrets des pros.
Ben oui, on est une bande de copains là, de magiciens, et on se connaît tous. Et quand j'ai appelé ses amis, ils m'ont dit écoutez, on va te suivre dans cette aventure. Eh bien voilà, on y va et on va faire le meilleur spectacle possible pour épater tout le monde et que vous ressortiez de là avec des étoiles. Mais cette année, ça va être vraiment de vous faire découvrir des grands magiciens réunis sur un seul et même plateau.
Et sur ce même plateau, vous pourrez donc retrouver le prodige espagnol Pablo Canovas, qui est réputé à l'international pour ses techniques de manipulation. Vous retrouverez également Caroline Marx, qui s'est fait un nom en changeant les codes de la magie. Il y aura aussi Kimo, l'homme toupie, Jimmy Delpin, spécialiste du close-up, Jérôme Murat, dont la statue aux deux têtes a eu les honneurs du plus grand cabaret du monde, ou encore François Pierce, un magicien en multiples facettes. Présentation du spectacle, toujours avec Nicolas Del Pozzo.
La magie, c'est des techniques, c'est beaucoup d'observation. Donc si vous êtes observateur, bricoleur, eh bien, vous pouvez, avec beaucoup d'imagination surtout, je pense que vous êtes sur la bonne voie pour débuter dans la magie. Mais après, qu'ils n'hésitent pas, s'il y en a certains enfants, si des auditeurs veulent devenir magiciens, qu'ils n'hésitent pas à venir me voir à la fin du spectacle et je pourrai leur donner encore plus de conseils, des secrets bien gardés de magiciens.
Voilà, les places sont d'ores et déjà en vente sur ticketspacifique.pf dans les magasins Carrefour ou à l'accueil de vos radios à Faré Outé. Le festival Les Stars de la Magie, un show proposé par Ressa Productions, c'est donc les 23 et 24 février à la Maison de la Culture. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité, ce sera avec le flash de l'après-midi à 16h.